Bonjour à tous. Aujourd'hui, premier jour de la semaine de la presse à l'école. Nous organisons une émission radiophonique autour de trois tables rondes, dont le thème principal sera la laïcité à l'école. Nous déclinerons ce thème en trois parties. Premièrement, la laïcité et les valeurs de la République au quotidien à l'école, avec comme invité Madame Couder, CPE au Collège Pierre de Coubertin, au Luc-en-Provence, et membre du groupe académique Valeurs de la République au rectorat de Nice, et Monsieur Henri, maire de Fayence. Ensuite, la seconde partie sera intitulée « Laïcité et liberté d'expression » avec comme invité le dessinateur de presse Christian. Et nous commençons tout de suite avec la première table ronde. Celle-ci est intitulée « École et laïcité, le choc Samuel Paty » avec comme invité M. Delporte, professeur d'histoire-géographie et de MC. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et madame Noyon, principale de notre collège. Bonjour.
Bonjour.
On commence par vous madame Noyon. Comment avez-vous réagi personnellement en apprenant ce drame et les circonstances terribles dans lesquelles il s'est passé ?
Alors j'ai été tout à la fois effondrée, meurtrie et déterminée à poursuivre mes missions. Alors... Effondrée parce que bien évidemment après les attentats de Charlie on pouvait imaginer que les enseignants seraient les prochaines victimes ou en tout cas seraient visés puisque dans l'exercice de leur métier les enseignants sont là pour former les élèves à l'esprit critique mais jamais je n'aurais pu imaginer une telle barbarie et donc le premier sentiment était voilà, celui d'une sorte d'effondrement, d'un ébranlement total, parce que on n'arrive pas à imaginer le mal. Ensuite, meurtri, parce que nous sommes tous des professionnels de l'éducation, qu'on soit professeur ou chef d'établissement, et qu'on s'est senti visé personnellement, parce que c'était un de nos collègues qui était assassiné, et que nous avons tous pour mission, comme lui, de permettre aux élèves d'exercer leur esprit critique. Et puis enfin, j'ai été déterminée à poursuivre les missions parce qu'au-delà de l'horreur, on croit toujours en l'éducabilité des élèves et on se bat toujours pour que petit à petit, eh bien, ces notions de valeur, de république, de laïcité puissent être comprises par tous. Donc ça a redoublé finalement ma volonté de... continuer mes missions de chef d'établissement.
Et vous, monsieur Delporte, comment avez-vous réagi de votre côté ?
Alors, d'une manière effectivement à peu près similaire, c'est-à-dire que le choc, d'abord, je pense que pour moi comme pour tout le monde, d'une certaine manière, j'apporterai une toute petite inflexion parce que j'étais pas, hélas, si surpris que ça. Effectivement, justement parce que, effectivement, comme l'a rappelé Madame Noyon, après les attentats de Charlie Hebdo, c'était finalement, malheureusement, dans la lignée, en fait, du mode d'action, et de tout ce en quoi des personnes, là en l'occurrence, un Tchétchène, voulaient s'opposer, et déterminer également. Il faut bien rappeler le contexte, c'est-à-dire que, en octobre, le 16 je crois, je n'ai plus la date exacte, mais quand Samuel Paty est effectivement assassiné, on a une généalogie d'attentats depuis quand même une dizaine d'années, un peu moins. Mais on a les guerres de Syrie depuis 2011, on a eu Charlie Hebdo, on a eu l'hypercachère, on a eu le Bataclan. Donc d'une certaine manière, malheureusement, ce n'est pas si surprenant que ça. Voilà. Et ensuite, effectivement, la détermination, parce que le but, c'est effectivement justement de continuer d'éduquer, d'apprendre, d'éveiller aussi. C'était Raoul Follereau, je crois, qui disait « Des démissions de notre temps naît la mission de notre vie ». Voilà. Donc, effectivement, la détermination toujours aussi intacte.
Monsieur Delporte, avez-vous parlé de ce drame avec vos élèves et quelles ont été leurs réactions ?
Alors... c'est une bonne question puisque Samuel Paty est assassiné un vendredi à 17h en octobre et en fait débutent les vacances pendant deux semaines. Donc pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, c'est-à-dire qu'à la fois Ça permet de prendre un peu de distance, un peu de recul, un peu de souffle aussi, pour nous comme pour les élèves. Et d'un autre côté, à la rentrée, on a une certaine forme de démobilisation aussi. Les élèves, voilà, ont passé 2 semaines de vacances, on fait autre chose, voilà. Alors heureusement, le jour de la rentrée, il y avait toute une journée qui était organisée avec voilà, une trame à suivre, un protocole, etc. Donc ça a permis justement de rappeler l'importance du droit, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, où s'arrête le blasphème, enfin où, dans quelle mesure est-il possible, etc. Donc voilà, c'était après plus pour rappeler un cadre général que de se fixer sur une journée dont la solennité était déjà en fait encadrée d'une certaine manière.
Madame Noyon, cet événement a-t-il changé quelque chose dans la manière de gérer le collège ?
Oui, bien évidemment. D'abord parce que j'ai trouvé la réaction de la chef d'établissement qui a accompagné Samuel Paty pendant toutes les semaines qui ont précédé son assassinat. L'accompagnement de cette femme a été exemplaire. Elle a écouté les parents, elle a écouté ce professeur, elle est allée porter plainte avec lui. Elle a montré que ce n'était pas que Samuel Paty qui était visé, c'était l'institution scolaire. Et dans son accompagnement, elle a été présente et surtout, à aucun moment, elle n'a douté de son professeur. Elle a été d'un soutien remarquable et elle a fait en sorte que ne puisse pas s'infiltrer cette espèce de petite phrase qu'on aurait pu voir, à savoir « il l'a bien cherché », etc. Elle a été d'un soutien remarquable. Et ça, pour moi, c'était la première leçon en tant que chef d'établissement. La deuxième leçon, c'est que dans le type d'enseignement que nous connaissons, où finalement les professeurs sont souvent seuls face à une classe, peut-être qu'il y a à réfléchir sur comment, et c'est ce qu'on fait exactement aujourd'hui, comment on peut travailler ces thèmes-là, mais de manière collective, de telle sorte que ce soit un collectif de professeurs porté par cette réflexion sur la laïcité, les valeurs de la République, l'esprit critique, que tous ensemble, nous portions cette parole-là, afin de ne pas isoler les individus et afin de faire en sorte que voilà, la laïcité peut traverser toutes les disciplines, que l'on peut mettre autour d'une table un historien, un prof de SVT, un prof de mathématiques, parler du procès contre Galilée, parler voilà, de la construction de la laïcité en histoire, mais faire en sorte que ce soit un collectif qui parle. Et donc quand on fait la journée de la laïcité au sein des établissements scolaires, ce qui est important, c'est que ce ne soit pas un projet de quelque individu, mais que ce soit un projet de toute la communauté scolaire qui puisse montrer effectivement qu'on peut être solidaire dans la construction de ce projet et qu'il est compliqué d'être seul dans la construction de la laïcité et que c'est mieux de le faire tous ensemble. Voilà. Donc c'est aussi le travail collectif qui me semble important.
Monsieur Delporte, avez-vous modifié votre façon d'enseigner l'EMC après le choc de l'assassinat de Samuel Paty ?
Déjà, on n'enseigne jamais de la même manière. Nos enseignements sont toujours, d'une certaine manière, aussi retravaillés, réactualisés. Donc, effectivement, l'assassinat de Samuel Paty en fait partie. Je pense que j'ai un peu plus axé aussi le propos sur le droit. J'ai eu la chance, avant de faire l'histoire, de suivre des études en droit et sciences politiques. Et du coup, ça m'a aussi donné une ouverture et un axe de travail sur ce point-là. Donc oui, peut-être, et de renforcer aussi toute la généalogie qui préside à la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Je pense que de ce point de vue-là, oui, mon travail, c'est plutôt dirigé de cette manière.
Madame Noyon, comment pourrait-on éviter la propagation de fausses rumeurs comme celle qui a été à l'origine de l'assassinat de Samuel Paty ?
Alors ça, c'est une question importante parce que elle recoupe une des grandes difficultés du métier d'enseignant et de toute la communauté éducative, c'est-à-dire comment, en ce moment, on éduque, on instruit, on communique au temps des réseaux sociaux. comment l'équipe éducative peut aussi se poser la question de l'impact des réseaux sociaux et de la consommation des médias, et comment dans le cours chacun peut, à sa façon, eh bien, montrer que les risques sont nombreux et qu'on ne peut pas laisser les élèves se débrouiller seuls par rapport à ces situations. Parce que bien évidemment, parfois, ils vont cliquer, se retrouver face à une information dont ils n'ont pas les clés pour comprendre le sens. Et pour moi, un des axes majeurs désormais, c'est bien évidemment de renforcer, et Madame Vallet ne va pas me contredire, l'éducation aux médias et à l'information. C'est fondamental que nous fassions ce travail-là. Parce qu'il participe de la formation de l'esprit critique des élèves. Donc lutter contre la rumeur, c'est avant tout éduquer. Éduquer, éduquer. Il n'y a que cela comme mot. Et éduquer à l'usage des réseaux sociaux, faire de la prévention, informer les élèves en ce qui concerne leurs pratiques. Voilà comment on pourra lutter contre la rumeur.
Monsieur Delporte, savez-vous utiliser les ressources pédagogiques que le ministère a mis à votre disposition des professeurs, ou utilisez-vous toujours les mêmes cours ?
Alors, je n'utilise pas toujours les mêmes cours. Après, est-ce que j'ai utilisé les ressources pédagogiques ? Si je dis non, je vais me faire taper sur les doigts, mais je vais prendre ce risque-là quand même. Je pense que les ressources pédagogiques mises à disposition sont très utiles pour des enseignants qui peut-être... maintiennent quelques zones d'ombre sur cette loi, par exemple, la loi de séparation des églises et de l'État. Pour ma part, ce n'est pas le cas, donc j'ai déjà mes propres ressources. Et disons que je suis très attaché à une approche, j'en ai parlé tout à l'heure, de faire de la généalogie. C'est-à-dire que, en fait, la loi de 1905 ne peut pas se comprendre, ne serait-ce que sans parler de la guerre franco-prussienne de 1870, de la faillite de l'Union Générale en 1882, de l'affaire Dreyfus, et des trois courants qui dominent à l'Assemblée nationale de 1903 à 1905. Je prends un exemple tout simple, mais le simple fait de distinguer trois courants, le premier courant qui est celui qu'on appelle des éradicateurs, qui veulent vraiment aller jusqu'à éradiquer la religion même de l'existence de Dieu, un deuxième courant qui est celui des concordataires, qui veulent vraiment une église qui est la mainmise, un État qui est la mainmise sur l'église, pardon, et enfin un troisième courant qui est l'approche libérale, qui est celui d'Aristide Briand et qui sera à l'origine de la loi de 1905. Sans étudier même ces trois courants, comment est-ce qu'on peut comprendre la laïcité aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui s'intéresse à la vie politique, ces trois courants, on les retrouve aujourd'hui. On a toujours un courant qui est très hostile à l'existence même, à la perspective même de l'existence de Dieu. On a toujours un courant qui veut que l'État domine les églises en tant que telles, ou le cléricalisme de manière générale. Et on a toujours un courant qui est très libéral. Voyez ? De ce point de vue-là, je pense que faire la généalogie de la loi 1905 est très important parce qu'elle permet d'éclairer le présent aussi.
Voilà le temps imparti pour cette première table ronde définie. Je vous remercie d'y avoir participé. Nous passons tout de suite à la table ronde numéro 2.